Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes de série des médias suivants. Présence information religieuse et le libraire. Au programme, pitié pour Haïti. Le libraire craque, littérature étrangère. Et le libraire craque, essai étranger. Bonne écoute.
Pitié pour Haïti. Un texte de Louis Cornelier, paru le 14 mai 2023 dans Présence, Information religieuse. Je lis les nouvelles en provenance d'Haïti et je suis atterré, apeuré. Le 27 avril, l'agence France Presse, AFP, résumait la situation avec des mots qui font mal. Selon Maria Isabel Salvador, nouvelle émissaire de l'ONU dans le pays, la violence terrifiante est partout et la présence policière limitée ou inexistante. Des écoliers sont visés par des tirs ou enlevés, des femmes subissent des viols collectifs et près de la moitié de la population, c'est-à-dire 5 millions d'habitants, a besoin d'aide humanitaire. Le 12 mai, l'AFP citait un communiqué de l'UNICEF selon lequel la violence des gangs qui ravage Haïti a provoqué une augmentation de 30 % en un an de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants. Des gens ordinaires, comme vous et moi, qui souhaitent vivre une vie ordinaire, comme vous et moi, sont pris dans cet enfer. Ça me bouleverse. Que faire devant une telle situation intolérable? L'urgence d'agir. Le 17 février 2023, dans Le Devoir, le politologue québécois Henri Milner s'affligeait de l'horreur qui a cours en ce pays, laissé à la merci des gangs qui comblent le vide politique. Selon Milner, il faut agir d'urgence en déployant une force armée internationale spécialisée, car il s'agit là de la seule solution réaliste pour rétablir une certaine normalité dans le pays. En janvier, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, disait la même chose. Le problème, c'est que l'ONU a les mains liées parce que, selon Milner, sa volonté d'action directe en Haïti est bloquée par les vetos russes et chinois. D'où l'appel à une mission non-onusienne dirigée par le Canada qui aurait notamment l'appui de la France, des États-Unis et du Mexique. Or, le Canada, pour le moment, refuse de s'engager dans une telle mission militaire. Affirmant vouloir garder le peuple haïtien au centre des solutions pour régler la crise, Justin Trudeau et son gouvernement choisissent plutôt d'offrir 100 millions de dollars pour le renforcement de la police haïtienne et d'imposer des sanctions économiques à certains membres de l'élite du pays soupçonnés de profiter du chaos. D'après le chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Heer, les forces armées canadiennes, déjà engagées sur le terrain en Lettonie avec 700 soldats et sur le plan financier en Ukraine, n'ont pas la capacité de mener une éventuelle mission de sécurité en Haïti. D'autant moins qu'elle serait en déficit de 16 000 militaires, selon la major générale Lise Bourgon, citée dans le même article de Radio-Canada. Pour Milner, le refus canadien de s'engager directement en Haïti est irresponsable. Les dangers d'une mission. Guy Taillefer, éditorialiste du Devoir pour les affaires internationales, témoignait lui aussi le 1er mai 2023 de l'horreur que lui inspire l'enfer haïtien, mais n'adhère pas à la solution proposée par Milner. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MIS, MUSTAH, déployée de 2004 à 2017, a laissé de mauvais souvenirs en étant entachée par des accusations de partialité politique et de crimes sexuels. La volonté américaine de sous-traiter la responsabilité d'une nouvelle mission en Haïti au Canada n'augure rien de bon. Le gouvernement Trudeau, par conséquent, a raison de résister à cet engagement dont la réussite serait pour le moins incertaine, écrit l'éditorialiste. Que faire dans ces conditions? Taille faire, comme Gilles Rivard, ancien ambassadeur du Canada en Haïti, appuie l'idée de renforcer massivement la police nationale d'Haïti, capable, si on lui en donne les moyens, d'endiguer la violence et de rétablir sa crédibilité. Il reste, conclut Taillefer, qu'il faudra aller plus loin pour sortir de l'impasse haïtienne, entretenue depuis des années, selon lui, par les membres du Core Group, une organisation internationale informelle composée notamment des ambassadeurs du Canada, des États-Unis, du Brésil, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France et de l'Union européenne en Haïti, trop souvent sourde aux voix avisées de la société civile du pays. La prière de Pierre Bourgault. Alors, faut-il intervenir ou pas? Mon désarroi rejoint celui que Pierre Bourgault, un de mes maîtres à penser, exprimait dans Le Devoir il y a 30 ans, plus précisément le 18 octobre 1993. Dans une chronique doucement intitulée « Haïti, mon amour », reproduite dans le recueil « La colère », petite collection Lanctot 2003, Bourgault se désolait déjà de la souffrance du peuple haïtien et confiait se désespérer de ne pas trouver les moyens ou la manière de lui faire partager une part de son bonheur tranquille. Il ajoutait pourtant, en assumant sa contradiction, ne pas perdre espoir pour demeurer fidèle à l'esprit haïtien. Que fait-on quand on ne sait plus quoi faire? Demandait-il en formulant la question qui me taraude. Il en appelait à l'exigence minimale du respect. Quand on est un étranger, écrivait-il, on doit avoir la décence de ne pas donner de leçons pour mieux laisser paraître le sentiment de respect qu'on éprouve pour l'indomptable caractère et le courage toujours réinventé du peuple haïtien. Quand on ne sait plus quoi faire, on peut encore au moins offrir son amitié, sa solidarité et sa fraternité. Et prier, concluait-il, même si on ne prie plus depuis longtemps. 30 ans plus tard, je prie encore, en demandant pitié pour Haïti. C'était « Pitié pour Haïti », un texte de Louis Cornelier, paru le 14 mai 2023 dans Présence, Information religieuse.
Les libraires CRAC, littérature étrangère, une sélection des libraires indépendants parue le 15 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Crépuscule, Philippe Claudel, Stock. Le meurtre d'un religieux sert de fil conducteur à cette œuvre ambitieuse qui n'a rien d'un roman policier. Philippe Claudel nous entraîne dans l'Europe de l'Est, au début du XXe siècle, au cœur d'un petit village où cohabitent chrétiens et musulmans. L'auteur s'intéresse à l'apathie morale qui gangrène une communauté, l'indifférence face à l'injustice galopante. L'enquête se veut sociologique. Chaque personnage est une équation tordue, déformée par les conventions sociales et les pulsions refoulées. Le portrait que brosse Claudel de la nature humaine est empirique, à la Tolstoï, une fresque évoquant l'Occident et la fin d'une époque. Crépuscule est un roman puissant et nécessaire, imprégné par une vision du monde aussi cruelle que sensible. Par Sébastien Veilleux, Pauline. Les femmes Stranger, Caterina Vermette, Québec-Amérique. Celle qui nous avait offert le tant apprécié Ligne brisée nous plonge à nouveau dans ces histoires familiales lourdes de souvenirs et de non-dits. Malgré la misère, Caterina Vermette parvient à raconter avec délicatesse, compassion et une franche lucidité ces femmes qui survivent dans un univers où bien peu de portes s'ouvrent, forcées de se débrouiller sans filet, démunies. Margaret, l'aïeule, étouffée par sa famille, se mure dans la hargne et le ressentiment. Elsie, abrutie par la drogue et l'alcool, rêve de réunir sa famille sans en avoir la force. Ses deux filles, Phoenix, s'enlisant en prison, et Cedar, cherchant à s'émanciper par les études. Chacune d'elles porte son fardeau, mais aussi son espoir, son rêve d'un ailleurs possible, par Chantal Fontaine, moderne. La sirène de Black Conch, Monique Roffey, Mémoire d'encrier. Maudite depuis des temps immémorables et sillonnant la mer des Caraïbes, la sirène de Black Conch se laisse voir par David, un pêcheur solitaire incapable de l'oublier, fasciné. Alors qu'elle a été capturée par des hommes sans scrupules, David la libère et l'amène chez lui. Leur amour voit le jour à l'abri des regards. Monique Roffey remue le passé avec malice et efficacité, en plongeant dans les eaux troubles de l'archétype féminin avec cette femme trop attirante, punie en devenant une créature marine proche du monstre. Elle offre un prétexte tout désigné pour confronter ses personnages à leur dissension latente, entretenue par des siècles de colonialisme. Une histoire simple et puissante, aux allures de fable, portée par une plume aussi riche que vive, par Chantal Fontaine, moderne. Le silence et la colère, Pierre Lemaître, Calman Lévy. Un policier trop dévoué et honni, protecteur de la natalité, une journaliste ambitieuse, prête à salir les Françaises pour propulser sa carrière, un mari cocufié et maladroit, atteint d'une pulsion meurtrière incontrôlable, une fillette victime d'une chute trop accidentelle, un village englouti, sacrifié sous les flots d'une modernité profitable à tous, délices et horreurs, silence et aveux, les tribulations de la famille Pelletier, en ce début des années 1950, s'amplifient dans ce second tome des Années glorieuses de Pierre Lemaître, renouant, pour notre plus grande satisfaction, avec le grand esprit feuilletonesque à la Zola. Lecteur, prenez garde, vous risquez d'en faire une totale addiction, par Christian Vachon, Pantoute. Le Muguet rouge, Christian Bobin, Gallimard. Bobin s'en est allé dans l'immanence bienheureuse qu'il savait si bien nous dévoiler, tirant le voile de la réalité sur la beauté des petites choses poétiques cachées en coulisses. Bobin nous laisse quelques mots endimanchés pour affronter la vacuité de la modernité, ces hordes d'assoupis en marche vers on ne sait où. On découvre, en plus de sa sempiternelle sérénité, de sa capacité d'émerveillement olympique, un Bobin plus combatif, affûtant un instant les plumes de ses douces ailes de rêveur, pour pourfendre de quelques piques ricanantes la médiocrité ambiante. Puis, il nous rappelle justement que, peu importe l'ampleur de l'atrocité, son époque de référence, il s'agit toujours de trouver en toute chose la couleur éclatante du muguet rouge. Par Thomas Dupont-Buis, Gallimard. Galatée, Madeleine Miller, Calman Lévy. Les œuvres de Madeleine Miller sont rares, ce qui fait de la moindre nouvelle un événement éditorial. pour patienter jusqu'à la parution prochaine d'un roman autour de Perséphone, voici une courte nouvelle d'une quarantaine de pages qui renverse la perspective du mythe de Pygmalion. C'est au tour de la statue animée de raconter sa version. Exit le sculpteur génial transi d'amour, Galatée brosse plutôt le portrait peu flatteur d'un misogyne maladivement jaloux et possessif qui n'hésite pas à séquestrer sa femme pour rejouer à l'envi la genèse de son absurde fantasme. Toujours aussi pertinente et percutante dans sa réinterprétation des mythes grecs, Miller réussit de nouveau à transposer ses histoires millénaires vers une forme de récit inlâchable. Par Thomas Dupont-Buis, Gallimard. L'oiseau de pluie, Robbie Arnott, Alto. Après avoir terminé la lecture de L'oiseau de pluie, un poids s'est installé dans ma poitrine. Je ne sais pas si c'était du vide ou du plein. Mais je sais que le livre existe encore dans une petite caverne quelque part dans mon corps. L'écriture de Robbie Arnott, simple et poétique, met en image des paysages ancrés dans mon imaginaire, met en action des personnages inoubliables, humains dans toute leur noirceur et dans toute leur clarté. Le fil des vies se croise et s'en mêle, la nature s'égare et revient. Et moi, c'est à ce livre que je reviendrai toujours. Une œuvre qui suit bien sa précédente, Flamme, mais qui s'en émancipe totalement, complète et sans faille. Un livre de fiction, comme il s'en fait peu, qui agit comme couverture lors de journées froides d'hiver, comme première fleur au printemps. On veut le garder près du cœur et, une fois la dernière page tournée, ne jamais s'en départir. Par Maggie Mercier, Anne Norak. La maison au livre, Ennis Batur, Zulma. À la mort d'un bibliophile exubérant, un éditeur reçoit en héritage son manoir perché sur une colline verdoyante d'une Turquie où le soleil brille toujours. Le manoir est un prétexte. Le bâtiment entier abrite une bibliothèque rare et riche, où se cachent quelques secrets qu'il faudra bien élucider. Des labyrinthes, des géométries, des corridors, des cachettes, des mots, des langues, des dédales, des rêveries, des livres, d'autres livres, encore plus de livres. À la fois essai sur la chose littéraire, du processus éditorial en passant par le plaisir de lire, et roman, la maison au livre est un hommage au moment tranquille, à la texture du papier, aux fantaisies de classement. Un roman miroir agréablement intrigant, par François-Alexandre Bourbeau, Libère. C'était Les libraires craquent, littérature étrangère, une sélection des libraires indépendants parue le 15 juin 2023 dans la revue Les libraires. Les libraires craquent, essais étrangers, une sélection des libraires indépendants parue le 16 juin 2023 dans la revue Les libraires. Kama Sutra pour tous, toutes, guide illustré pour une sexualité épanouie et inclusive, La renarde bouclée, First. Wow! Enfin un livre inclusif dans toutes les sphères de la vie. Un grand must pour les personnes qui aiment apprendre de A à Z sur le sexe sans limite. L'inclusivité est grande, mastectomie, vergeture, amputation, poitrines asymétriques, varices, transidentité, appareils auditifs, sexualité des aînés, vitiligo, grossesse, césarienne et bien plus. Ce n'est pas tout. Ce merveilleux recueil nous offre des leçons sur le sexe en soi, le genre, les orientations sexuelles, mais aussi sur l'anatomie féminine, masculine et intersexe, et une déconstruction des tabous. Par Ciel du Charme, les bouquinistes Chicoutimi. Mais fragile, Jérôme Garcin, Gallimard. Ce court récit, à propos de personnes aimées, est d'une tendresse et d'une éloquence remarquables. L'auteur porteur d'une maladie génétique qui a touché son frère et qui l'a transmise à sa fille, nous informe de la fragilité de la vie et de l'impératif de vivre. Les mots que Jérôme Garcin utilise pour raconter ses pertes sont incisifs et tendres tout à la fois. Il témoigne avec douceur de son amour des siens, personnage coloré, surtout son frère, un être humble qui laisse un souvenir indéfectible dans la mémoire de l'auteur. Mais fragile et captivant, il se lit vite et, à vrai dire, j'en aurais pris 100 pages supplémentaires. À lire absolument. Par David Girard, Carpe Diem. Dysphoria Mundi, Paul B. Preciado, Grasset. La dysphorie ne se passe pas seulement sur le plan du genre et de l'identité. Nous vivons dans une dysphorie générale. Épidémie, catastrophe climatique, guerre, violence raciale et sexuelle. Paul B. Preciado nous fait remettre en question notre opinion de la politique. Cette merveilleuse brique qu'est Dysphoria Mundi vous emportera dans les inégalités sociales contemporaines. À quand un monde où l'humain n'aura plus à s'entretuer et à détruire son environnement pour vivre en harmonie? Lisez attentivement. C'est le son du monde qui s'écroule sous nos yeux. Par Ciel du Charme, les bouquinistes Chicoutimi. Démocratia, une histoire de la démocratie, Paul A. Cartledge, Passé composé. Au moment où les démocraties sont mises à mal, Paul Cartledge réalise une synthèse historique à leur sujet. L'auteur, un helléniste, s'interroge sur les facteurs qui ont permis l'émergence, le maintien et l'évolution des différentes formes de démocratie directe à Athènes et dans le monde grec, tout en cherchant à définir leurs caractéristiques. Cette enquête, qui se poursuit jusqu'aux réinventions modernes de la démocratie, indirecte cette fois-ci, aboutit à un constat percutant et novateur. L'élite intellectuelle qui a écrit au sujet des démocraties anciennes a proposé l'idée d'un système politique donnant trop de voix au peuple et propice aux conflits internes, une idée toujours en vogue. Cet ouvrage est à la fois historique, scientifique, engagé et personnel, un vent de fraîcheur. Un incontournable pour tous ceux qui s'interrogent sur les formes de gouvernement et l'avenir des démocraties. Par Chani Plante, La Liberté. La Renarde, Dubravka Ugrizic, bourgeois chrétien. Dubravka Ugrizic vient de nous quitter. Toute mon estime va à cette grande militante antinationaliste qui, malgré le démantèlement et la haine raciale en Yougoslavie, dont elle a été le témoin direct, n'a pas perdu une graine de son humanité. Avec La Renarde, tout juste traduit par Chloé Billon chez Bourgeois, elle retrace le fil rouge de la création des histoires, tente de défricher le sentier abstrait de l'inspiration, et nous guide dans l'aventure sinueuse de la construction narrative. On voyage à ses côtés en se laissant entraîner par sa pensée flottante. On s'agrippe ici et là au quai de minuscules épiphanies quotidiennes, drôles et pitoyables, où souffle parfois un vent de misanthropie. les anecdotes livresques, s'enchaînent aussi. Vala Dubravka, par Alexandra Guimond-Gallimard. Inconsolable, Adèle van Riet, Gallimard. À la suite de son très réussi récit sur la vie ordinaire et la maternité, voilà qu'Adèle van Riet creuse avec Inconsolable la sépulture littéraire de son défunt père. Toujours dans l'analyse critique d'une réalité propre, mais universelle, elle sonde l'émotion sous le radar philosophique. Comment se consoler? Vieillit-on plus rapidement sous le lourd fardeau de la peine? Est-ce qu'un chat, figure de l'affection pure, peut devenir un remède pour combler cette affliction? Van Riet ne lésine pas et fait de l'anecdote une merveilleuse manière de raisonner. En évoquant The Köln Concert de Kate Jarrett comme métaphore absolue du laisser-aller, elle défend l'idée que c'est dans l'action que l'improvisation se joue et qu'il faut une part de laxité pour être capable de supporter l'inconcevable. Par Alexandra Guimond, Gallimard. C'était Les libraires craquent, essais étrangers, une sélection des libraires indépendants parue le 16 juin 2023 dans la revue Les libraires.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Hélène Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.